Amis de Radio Occitanie et de la poésie, Les Poètes, une émission de Claude Brotet et Christian Saint-Paul. Tout d'abord, bonne année à tous, bonne annada, heureuse annada, heureuse année à tous, et fidèle à notre vocation de répandre la poésie dans cette ville qui a été la capitale de la poésie et qui peut-être sera de nouveau la capitale de la poésie, la capitale nationale de la poésie, Les Poètes vont vous faire entendre depuis 1983 que nous sommes arrivés, Claude et moi, ici dans cette radio, vous faire entendre cette merveilleuse poésie contemporaine qui est la fierté de notre culture. Alors aujourd'hui, je vais faire d'abord une présentation, déjà un livre dont je vous avais parlé l'année dernière, c'est-à-dire dans les dernières émissions de 2023, de décembre 2023, en préambule des émissions faites avec le poète israélien Michel Ekar Elial. Il s'agit de la littérature occitane, puisque dans la collection Fédérope, les éditions Pierre Ménard, dont il faut dire beaucoup de bien, car vraiment, elles diffusent beaucoup de poésie. Et là, elles ont créé, ces éditions, une collection littérature occitane troubadour, où est publiée, en édition bilingue, donc occitan-français, avec une présentation et une adaptation très claire de Yves Leclerc, pardon du jeu de mots, chanson de Cercamon, Cherche-Monde. Alors, je n'avais présenté un petit peu ce livre. Cercamon, c'est troubadour qui serait né dans les années 1110-1115 et qui aurait composé donc ces 8 poèmes qui font l'objet de cette publication, Cherche-Monde, entre 1135 et 1152, qui serait la date présumée de sa mort. Alors, si ce poète apparaît comme l'inventeur en langue moderne de ce qu'on a appelé, entre guillemets, le poème débat, c'est-à-dire de la complainte, il peut être aussi considéré, après un troubadour très célèbre, Guillaume IX d'Aquitaine, donc qui a vécu à la fin du XIe et début du XIIe siècle, comme l'un des tout premiers créateurs de chansons d'amour, avec notamment, bien sûr, celui dont on parle toujours à propos des chansons d'amour occitanes, qui est Geoffrey Rudel. Alors, ce fameux Cercamon, il est en réalité l'une des toutes premières voix de ce patrimoine lyrique de la poésie occitane, bon, qui va devenir après la poésie nationale, donc la poésie française. Et ce pseudonyme de Cercamon, avec lequel le troubadour se désigne, peut donner une idée de sa quête. Et c'est là que l'on va voir, après la présentation de ce Cercamon, lorsque je vais parler de Joël Vernet, qui est un des plus grands poètes contemporains vivants, à quel point, lui aussi, il reste dans le cherche-monde. Il est celui qui cherche monde, il cherche l'amont, il cherche aussi le haut dans tout ça. On va voir comment, 8 siècles plus tard, la posture des deux poètes, le premier troubadour dans sa langue occitane, et le deuxième, Joël Vernet, dans sa langue française, ont la même finalité, la même quête, celle du cherche-monde, chercher l'amont, chercher le haut. Lui va le faire, Joël Vernet, il va le faire aussi
avec les moyens dont on dispose au XXe et XXIe siècle, puisque Joël Vernet, lui, est né en 1954. Donc il va le faire avec des tours du monde, en allant voir en Afrique, en allant voir en Asie, en allant voir dans le Maghreb, et en allant voir aussi dans nos merveilleux paysages d'Occitanie et de toute la France. Alors je vous invite à lire Cherche-Monde, donc, de ce troubadour, chanson de Cercamon, et en particulier, la dernière fois, je crois que j'avais insisté sur les bidas, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces poèmes d'amour. Alors, il y a un texte qui s'appelle « Quand la douce aura sa marcisse », c'est-à-dire « Quand la douce brise se fait amère ». Alors, ce poème, que je vais vous lire en français, c'est comme une matrice de la chanson d'amour, parce qu'elle est tout à la fois douleur et joie. C'est ce paradoxe dont la plupart des troubadours d'oc, tout particulièrement Bernard de Ventadour, s'inspireront. Aucun indice historique ne permet de situer cette chanson, et on s'en moque en définitive, parce que sa facture et son thème autorisent l'hypothèse qu'elle ait été composée exactement dans les mêmes années que les chansons précédentes, Perfine Amour, etc., c'est-à-dire à tout le moins durant la fin de la première moitié du XIIe siècle, c'est-à-dire elles auraient été composées entre 1137 et 1145. Alors la première strophe de ce poème va donner le ton, puisqu'il renverse la formule d'exorde qui est habituellement printanière, c'est-à-dire que l'état d'âme du poète est annoncé par la venue de l'automne et de l'hiver, et au début, le registre lyrique est surtout élégiaque, le poète de la fine amour se plaint et se peint tout à tour comme un amant ligoté, la chatte, et un amant captif, tourmenté, frustré. Cette frustration, on va la trouver une espèce de leitmotiv des troubadours, et bien sûr, c'est un motif qui est cher au poète de l'amour latin. Là, ils reprennent ce que disait Ovide, qui inspira tant les troubadours, c'est-à-dire un amour impuissant, un amour abruti, mais sans l'ironie du pourtant très proche Marc Arbru. C'est un amour qui est follement envieux, qui est un amour ardent, craintif et incertain. Et cependant, l'élégie amoureuse fait basculer le martyr en jubilation. Alors c'est là quand même, voilà. De cette plainte, de cette souffrance, eh bien, il va y avoir une espèce de masochisme là, extraordinaire. Il va jubiler comme une espèce de mouvement dialectique. Le chanteur, donc le poète, le troubadour, idéalise ou fait l'éloge de l'amour et de l'amante, et ce d'autant plus que celle-ci va se montrer cruelle, mais même infidèle. Alors le poète, il jongle sur l'inquiétude et la joie. Une espèce de délectation morose, la douloureuse frustration, ça va culminer alors dans la jouissance et la joie parfaite que vous allez entendre dans les dernières strophes. Voilà, je vais vous faire entendre ça tout de suite en vous disant que il y a une étude qui a été faite, et cet art du troubard et de l'amour courtois est repris par certains poètes contemporains. Voilà. Mais ceci est autre chose. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler ici à cette émission, dans cette émission Les Poètes. Alors, quand la douce aura sa marcisse, quand la douce brise se fait amère, quand la douce brise se fait amère, quand tombe de la branche le feuillage, et quand les oiseaux changent leur langage, je soupire et je me mets à chanter d'amour qui me lie et tient prisonnier, moi qui en mon pouvoir ne l'eus jamais. Car moi, l'amour, je n'ai conquis, hélas, rien d'autre que les tourments et l'angoisse. Rien n'est plus difficile à obtenir que ce vers quoi se porte mon désir. Et rien n'excite autant ma convoitise que ce que je ne peux pas obtenir. Pour un beau joyau, je me réjouis, si fin que jamais rien je n'aimais tant. Près d'elle, je reste si ébahi que je n'ose lui dire mon désir, et quand je m'en vais, alors il me semble que je perds tout, le savoir et le sens. La plus noble que l'on ne vit jamais face à elle, je ne la prise un gant. Quand le monde tout entier s'obscurcit, le lieu où elle est sitôt resplendit. Je prierai Dieu afin qu'il me la donne, ou que je la voie allant se coucher. Partout, je tremble et chancelle et frémis pour son amour, que je dorme ou bien veille, et j'ai une telle peur de faillir que je n'ose penser à la prier. Mais je la servirai 2 ou 3 ans, peut-être alors saura-t-elle le vrai. Je ne meurs, ni ne vis, ni ne guéris, ni ne ressens mon mal, pourtant si grand, car de son amour, devin je ne suis, je ne sais pas si je l'aurai ni quand, parce qu'en elle est toute la merci qui peut m'élever ou m'abattre autant. Les chansons de Cercamoun, Cherche Monde, aux éditions Pierre Ménard, dans la collection Littérature Occitane Troubadour, un livre absolument à voir, tout bon occitan se doit de lire ça. Et ce livre vous coûtera, un très beau livre, hein, vous coûtera 15 euros. Alors, nous allons parler maintenant. Alors oui, une autre petite annonce, mais je reviendrai sur ce livre parce que je vais vraiment le faire très 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 rapidement. Juste pour dire, nous avons dans notre région de Toulouse, et en particulier même dans notre ville de Toulouse, nous avons des poètes. Ces poètes souvent sont méconnus pour ne pas dire inconnus. J'aurais signalé l'œuvre de l'un d'eux, Jean-Luc Haribaud, poète, photographe aussi, qui publie aux éditions à Bordeaux s'écrit A-B-O-R-D-O, hein, aux éditions à Bordeaux, un recueil de poèmes qui a pour titre « En cela ». Voilà. Je vais simplement vous lire un extrait, puisque je pense que Jean-Luc Haribaud sera un de nos prochains invités. Il n'est rien que nous ne pouvons saisir de nos ailes familières, mousses ou ronces, cailloux, celles des marées légendaires. Rien ne saurait se refuser à ces organes de haute magie. C'est dans leurs nervures secrètes que s'improvise le silence des sphères, que s'appreuvent nos bouches d'anges exilés. Autour de nous, les arbres agitent leurs vertes enfances, nuées chargées d'ans, de rien, de petits sauts, par-dessus la corde des collines, au théâtre si haut, que la biche cent fois s'y remet son galop, quand son pelage roux, perle des gouttes d'or, tout est bon, tout est clair, si ce n'était ce quelque chose de noir au loin, grimaçant dans la clarté. Et le dernier, vu ou pas vu, quelle importance, n'est-ce pas? Heure fièvre, minutes secondes essentielles, où dans la limaille de l'aube, se féconde, quoi donc? Cette répétition nécessaire, peut-être, ce remous, ressac, branle, son vertige lumineux volontaire, élan dans la langue enfouie. Voilà, donc une poésie de contemplation, une poésie de célébration, mais en même temps, bien entendu, tout un travail sur la langue et ce jeu de miroir, en définitive, entre ce que produit la langue, la merveille de la langue, et la merveille aussi, la merveille qui s'offre aux yeux de Jean-Luc Haribaud, des yeux particulièrement exercer, expérimenter, puisque c'est aussi un photographe. Un photographe dans le sens le plus artistique du terme, bien sûr, puisque c'est un photographe d'art et qu'il a même un atelier de photographie ici à l'espace Saint-Cyprien à Toulouse. Jean-Luc Haribaud, En cela, aux éditions à Bordeaux, un livre qui vous coûtera 15 euros. Maintenant, je voudrais vous parler d'un des plus grands poètes français vivant actuellement. Il s'agit de Joël Vernet. Joël Vernet, nous en avons déjà parlé ici, c'est souvent, en tout cas chaque fois qu'il y avait une nouvelle publication, et en particulier une émission que nous avons faite qui m'a marqué, moi, c'était sur ce qu'il appelle les notes éparses, Marcher ma plus belle façon de vivre. C'était publié aux éditions La Rumeur Libre. Alors, Joël Vernet, il est né dans un petit village aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère. Alors, je m'arrête un peu parce que je pense tout d'un coup à notre dernier poète qui était Jean Sacré et qui lui aussi était né dans un petit village, ainsi que notre ami qui est poète à Bordeaux et qui est lui aussi né dans un petit village, l'éditeur de William Blake, qui et cette naissance dans un petit village. Et lui, il va faire d'ailleurs le va-et-vient, Joël Vernet, entre une ferme et une maison dans ce petit village. Et il va passer donc son enfance là, mais dès les années 70, après avoir eu quelques années d'universitaire où il a étudié la philosophie, la psychologie et les sciences politiques, dans les années 70, donc, il entreprend plusieurs voyages. Alors, des voyages très importants, hein, qui le conduiront aux quatre coins du monde. Il va aller en Afrique. Il va aller notamment au Mali. Il va s'installer là, même, au Mali. Il va, au fil de ses nombreux ouvrages qu'il va publier chez Lettres Vives, et qu'il va publier à Fata Morgana, La part des anges aussi, Le temps qu'il fait, les éditions L'Escampette, il va développer, Joël Vernet, un style qui est unique, un style singulier, qui est le reflet aussi de son mode de vie, parce que il voyage, il voit tellement de choses, et il intériorise tellement de choses que il va tenir un journal de voyage. Un journal de voyage où va bien entendu se faufiler la poésie. Et il va célébrer dans tous ses livres le minuscule et l'immense, c'est-à-dire le proche et le lointain. Il travaillera ensuite avec des photographes comme Bernard Plossu, des peintres aussi en particulier, Jean-Gilles Bader, Joël Vernet, qui, dans ses pérégrinations, s'installe. Alors, il s'est installé au Mali, mais s'est installé aussi deux ans à Alep, évidemment, avant que Alep ne soit détruite par les islamistes. Alors, il publie deux livres dont j'aurais dû parler avant, et donc je vais vous parler donc dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, je vais me cantonner à un seul, puisqu'il est à mes yeux une publication terriblement importante. C'est Lettre ouverte à un marcheur déraisonnable. Et puis je vous parlerai de Journal contemplateur qui est publié aux éditions Fata Morgana, mais ça fera l'objet d'une autre édition. Lettre ouverte à un marcheur déraisonnable. Alors il s'agit d'une petite publication, petite dans le sens que elle est mince, puisque il y a une, c'est un format à l'italienne, il y a une vingtaine de pages, mais quelles pages ! Alors, ces éditions, le Réalgar, vous pouvez le commander, bien sûr, chez votre libraire, édition Le Réalgar, Joël Vernet, lettre ouverte, un marcheur déraisonnable, mais vous pouvez aller, et c'est peut-être plus commode, sur le site www.lerealgar, LEREALGAR, trait d'union, édition au pluriel, sans accent, .fr, LEREALGAR, trait d'union, édition, .fr, pour commander cet ouvrage qui est, à mon sens, un ouvrage d'une importance considérable dans l'appréhension de la poésie du XXe et XXIe siècle. Alors, dans la dédicace que Joël Vernet m'a gentiment rédigée pour moi, il dit à Christian Saint-Paul, donc, « Car le temps est notre plus beau trésor. Le temps est notre plus beau trésor. » Bien sûr que le temps est notre plus beau trésor, et c'est pourquoi nous le gaspillons peut-être. Il y a un exergue de ce livre, de ces notes également, mais ça me fait penser à ce qu'avait écrit Jean-Pierre Siméon, Éloge de la poésie, qui est publié dans cette collection Folio à 2 euros, et j'avoue que Lettre ouverte à un marcheur déraisonnable devrait avoir le même sort que l'éloge de la poésie de Jean-Pierre Siméon, c'est-à-dire une large diffusion. C'est pourquoi, vraiment, je vais m'acharner à faire connaître absolument cette publication. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont des choses, comment dirais-je, qui paraissent évidentes, mais qui sont d'une grande profondeur, et qu'il est bon, d'avoir lu ça. Il a mis en exergue cette phrase d'Arthur Rimbaud. La vie fleurit par le travail, vieille vérité. Moi, ma vie n'est pas assez pesante, elle s'envole et flotte loin au-dessus de l'action, ce cher point du monde. Alors déjà, il pose le problème. Qu'est-ce qu'un poète par rapport au travail ? Et ça, c'est une question que l'on ne pose, moi je la pose de temps en temps aux poètes qui sont là. Je me souviens par exemple d'avoir posé cette question aussi à Casimir Prat par exemple, qui a eu un grand silence en poésie parce que il était complètement avalé par son travail professionnel de libraire. C'est une question qu'il faut poser aussi. Qu'est-ce qu'un poète ? Parce que nous sommes aussi dans un pays assez curieux qui nourrit aussi ses poètes. Ça, de tout temps, il y a eu des mécènes, etc. Et de tout temps, les poètes ont été des hommes liges, des hommes qui étaient sous la dépendance aussi. Les troubadours étaient aussi, qu'on le veuille ou non, ils étaient sous la dépendance de ceux qui pouvaient les recevoir dans les cours des princes, des comtes, le comte de Toulouse, le comte d'Aragon, etc., qui avaient bien voulu les recevoir pour l'apparat de sa cour. Donc ils étaient aussi l'objet de cette dépendance-là. Mais cette dépendance, à part des gens comme Joël Vernet, par exemple, qui ont des gens d'une grande indépendance, parce que je crois qu'il est, comment dirais-je, il ne peut pas en être autrement du fait de sa psychologie, du fait de sa personnalité très forte. Il ne peut pas être autrement que fortement indépendant. Et ce pays engendre aussi une race de poètes qui sont des poètes subventionnés, des apparatchiks de la poésie. Bon, nous avons, nous, à Toulouse, le record absolu de l'apparatchik de la poésie. bon, qui a été pris en charge donc par les pouvoirs publics depuis 50 ans. Et Joël Vernet, lui, il pose ce problème. Qu'est-ce que c'est qu'un poète et comment un poète vit ? Alors il dit ceci. Une phrase ancienne recueillie dans les carnets. Alors les carnets, c'est ce qu'il écrivait, Joël Vernet. Ça s'appelait « Le regard du cœur ouvert ». C'était ces carnets qui regroupaient les années 1978 à 2010. Et il avait publié ça aux éditions La Part Commune en 2009. Une phrase ancienne recueillie dans les carnets qui résonne aujourd'hui dans le temps que nous vivons. L'essentiel de notre vie n'est surtout pas dans l'obligation d'un travail, mais plutôt dans son contraire, la flânerie, le désœuvrement. Vous vous rendez compte ? Voilà, il va jusqu'à dire ça. Il rejoint Rimbaud complètement, cette phrase de Rimbaud qu'il a mis en exergue. En d'autres temps, cela m'aurait valu l'opprobre, la relégation ou la déportation. Si la poésie était un travail, il suffirait de s'y mettre, de déployer un labeur, d'organiser son temps, des fiches, d'accumuler des savoirs, des réseaux, des connaissances, d'arracher les diplômes à l'université conquérante, aujourd'hui mise à mal, de passer à l'acte, d'écrire dans l'aventure programmée, puis de la consommer avec d'autres, de la partager, d'en partager l'essence à travers conférences, lectures, débats. C'est le destin, cela, de quelques-uns. Ils accumulent, entassent, puis digèrent. Cela, c'est la culture. Ce par quoi les hommes vivent et meurent, cela vaut si les dés ne sont pas pipés, si un grand nombre d'entre nous peut avoir accès à ce qu'une civilisation offre de meilleur, sinon à quoi bon ? Pourquoi l'art ne serait-il qu'à portée de la main de quelques-uns, excluant des foules entières ? Voilà pourquoi lire, écrire, voir, regarder, contempler, échanger sont ce terreau essentiel qui peut faire du petit dôme un géant attentif à l'abeille, à la course du soleil, aux nuages paresseux, à la plainte, à la joie, à la beauté, et non à la barbarie dévastatrice dont on voit les démons renaître à nouveau. Cela, c'est impossible, celui de toute société ouverte, bienveillante. Mais une telle société a-t-elle jamais existé ou demeurera-t-elle à jamais une utopie ? Tous, nous avons eu vent de l'expression d'Arthur Rimbaud, poète s'il en fut, jusqu'à l'extrême de l'aventure. Comme jamais, ça ne s'était produit avant lui et ça ne se reproduirait après lui, Rimbaud, faisant le tour de la question, se hissant au sommet d'un impossible, puis le dévorant par son bond brutal dans la réalité, nous léguant cette phrase, je cite Rimbaud là, « J'ai horreur de tous les métiers, maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle à main ! Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés. Moi, je suis intact, et ça m'est égal. » Plus tard, nous dit Joël Vernet, la vie lui fit affiner sa perception à Rimbaud. Commerçant, il devint, peut-être marchand d'armes. Pas peut-être, je pense, sûrement. C'est ce que dressent les gens de documenter, les commentaires savants. Et il ne manque pas, des commentaires savants. Pourtant, il ne viendrait à l'idée de personne, surtout pas un créateur, de dénoncer le travail en tant que tel, alors que tant en manque, justement, de travail pour le toit et le pain, les enfants, l'ordinaire des jours. Le travail n'est pas la santé, mais la nécessité, l'acte de creuser, de produire, de créer, en échange d'argent, de monnaie, d'esclavage ou de liberté. Puis Rimbaud disparaissant pour entrer enfin dans le labeur d'Aden et d'Éthiopie, gagner 3 sous, voire faire fortune, caressant l'espoir d'avoir ainsi un fils qu'il saurait élever sur les remparts de la vieille Europe. Nous connaissons la suite. Point de fils, point de fortune vraiment, mais l'errance, l'exténuation et la mort. Quant à la poésie, chez lui, elle fut une sorte de miracle, une aventure inégalée, inégalable, révolutionnaire dans son essence même, sa trajectoire solitaire, puis envoyé promener, le verbe ne suffisant plus, Arthur lui préférant l'immense leçon du grand silence. Foin des bêtises d'enfance, l'amour est à réinventer. La voix doit être au sommet, sinon motus, motus, qu'on me foute la paix. Je suis enfin rendu à la terre, honorons le travail, partons et ne partons pas, plus de mots. J'ensevelis les morts dans mon ventre. Ça, c'est une phrase extraite d'une saison en enfer de Rimbaud. Tous les poètes et les artistes ne sont pas des rentiers. Certains viennent au contraire de ce que l'on pourrait appeler les pauvretés profondes. Et leur vie est un champ d'obstacles qui importe. La question du travail pose la question du temps passé au travail, de la souplesse dont dispose celui qui vend sa force, ses compétences, en échange d'un salaire. Cela mérite le respect, car l'on sait l'énergie requise, la santé mise à mal, les sauts d'obstacles, les humiliations, les peines, les très rares reconnaissances, la mort, parfois pudiquement appelée accident du travail, car le travail, pour toutes et tous, c'est souvent la mise à genoux, une forme de pliage ordonnée par qui commande, érige des règles, donne des ordres. Le Créateur est là, dépossédé de sa création, qui n'en est parfois même pas une, un simple produit qui inondera justement le marché du travail. Le travail est policé pour l'accumulation capitaliste qui rapporte gros à quelques-uns, faisant pour la plupart d'entre eux, en particulier aujourd'hui en raison d'une accélération d'on ne sait quoi, des prédateurs, les biens terrestres, ayant été abandonnés aux appétits féroces, saisis comme des proies, l'air, l'eau, le sang, la terre, l'intelligence, toutes les formes de la vie sont soumises aux lois de l'argent qui règne en maître. Aucun aspect de la vie humaine qui ne soit touché. Même l'amour est contaminé par ce poison. Ce serait presque à désespérer si le vivant, et dans vivant il met un V majuscule, ne venait là pour s'opposer, enfin, résister. C'est aussi une loi de la vie, la seule qui nous fasse espérer. La poésie notamment qui est la beauté, la vérité peut-être dans le langage, une éthique du langage prenant source au cœur même des choses, au cœur du monde, souvent à partir du plus petit, de l'infime, du plus fragile, du moins protégé. Voilà pourquoi l'acte créateur poétique participe absolument du vivant, voulant permettre étendre la liberté de chacun. Après des désastres ou des victoires, il ne reste souvent presque rien. Des ruines, quelques pages, des poèmes, des verbes, des mots que les hommes s'emploient à faire circuler encore pour que la vie ne meure pas tout à fait. Alors, il pose là, avant de faire l'apologie, bien entendu, de la poésie, ce qu'avait fait Jean-Pierre Siméon dans l'éloge de la poésie, avant, dans son magnifique essai, « La poésie sauvera le monde ». Il pose quand même cette question prégnante, cette question qui est la question essentielle. Hein. Il faut bien vivre. Donc on va vivre par le travail. Et comment un poète y fait? Parce que le travail, il le dit bien, hein. Le travail, ça l'accapare complètement. Il va trouver dans ce travail une santé mise à mal, hein, comme il dit, les sauts d'obstacles, les humiliations, les peines, les humiliations. Les très rares reconnaissances, bon, on voit quand même quelqu'un qui a le sens de la réalité et qui sait ce qu'est vraiment le travail, ce que ça induit, le travail. Il y a une phrase magnifique à ce propos d'un grand poète occitan qui est Antonin Père Bosque et qui dit qu'il a voulu toute sa vie n'être ni le chef ni le soldat de quelqu'un. Voilà. Toute ma vie, j'ai voulu n'être ni le chef ni le soldat de quelqu'un. J'ai peur que ce soit une impossibilité. Car malheureusement, on est souvent à la fois le chef et le soldat de quelqu'un, en tout cas pour la plus grande majorité de la population laborieuse. On est soumis, bien entendu, à une subordination, et en même temps, souvent, on a soi-même l'obligation de subordonner autrui. Alors le poète, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? Il dit une chose quand même intéressante, c'est que, il va s'en expliquer un peu plus loin, je vais le lire, c'est que la poésie, c'est au-delà du travail. Bien sûr, il y a des poètes qui sont aussi des poètes, comment dirais-je, ceux qui font de la compilation, ceux qui font des... qui mettent tout ça, l'exégèse des choses, etc., qui vont trier la poésie, qui en font comme ça. Mais la création poétique, elle naît de la nécessité. Je pense toujours à Sylvia Plath. Sylvia Plath, qui, avant de mettre sa tête dans le four de sa cuisinière et d'ouvrir le gaz et de mourir ainsi, Sylvia Plath, dans les dernières semaines de sa vie, qui va, alors qu'elle est dans une situation épouvantable, elle se sent abandonnée de Teig Hughes, son mari, qui a une maîtresse et qui la délaisse. Elle est prise dans ses tâches ménagères avec des enfants qui vont l'accaparer, dont elle va avoir l'insupportable responsabilité, en même temps cet amour profond, bien sûr, de la mère aux enfants. Elle va être dans cette situation, dans ce piège de la vie vraisemblable. Et là, elle va écrire les plus beaux poèmes qu'elle ait jamais écrits, et sans lesquels, certainement, elle n'aurait pas franchi la notoriété universelle qu'elle a eue. Pourquoi ? Parce qu'elle était dans cette nécessité d'écrire. La nécessité d'écrire. Qui est une nécessité absolue, en définitive. Et cette nécessité-là, elle ne s'apprend pas. Il y a des ateliers d'écriture, etc. Foutaise, tout ça. Voici ce qu'en dit Joël Vernet. La création poétique est un mystère, ou plutôt une étrange alchimie qui ne s'explique guère, même si des milliers d'ouvrages existent sur la question, prolifèrent en tous sens et toute thèse, et c'est très bien. Mais pour qui écrit ? Cette notion est terriblement ténébreuse, qui nous fait garder le silence ou n'émettre des hypothèses qu'à voix basse, sans les claironner partout ou les ériger en dogme. En vérité, cette création est indissociable de la vie, de celui qui est emporté par cette sorte de folle exigence. Pourquoi vouloir dire, et de cette façon, par ce biais-là, celui du langage, alors qu'il existe tant d'autres travaux sur la terre ? Mais justement, est-ce un travail que celui-là ? Alors Flaubert vous dirait oui. Rimbaud, tu m'emmerdes, j'en sais rien. Ponge, vous entraînerez aux champignons, dans ce pré qu'il fera plus tard entrer dans les pages. René Char, du fond de sa cuisine, vous demanderez de ne jamais quitter des yeux la fenêtre, car des écureuils dans le jardin viennent dévaliser les feuillages d'un arbre. Je m'arrête là. Des écureuils dans le jardin. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à notre ami le poète slammer, oui, Thierry Tools, capitaine slam, avec l'écureuil, parce que capitaine slam, comme moi, il a repéré les écureuils du jardin des plantes, et de temps en temps, quand il y passe, il les regarde. Et là, récemment, là, il y a 15 jours, j'ai regardé les écureuils se poursuivre au jardin des plantes, et j'ai pensé au capitaine Slam qui avait, voilà, ce pouvoir magnifique, comme René Char, du fond de sa cuisine, hein, de vous demander de regarder les écureuils dans le jardin qui viennent dévaliser les feuillages d'un arbre. D'autres, les plus savants, vous dérouleraient des pans de théories entiers qui ne feraient qu'obscurcir le sujet. De plus, jeune poète s'enflammerait, jetterait au feu tous les mots, inventerait une langue justement illisible, car ce qui compte, ce n'est pas le travail, mais la révolution en tout lieu et à tout moment. Aux orties, le sens, la beauté, les fariboles, la clarté, la foudre, la langue, foutaise. Mandelstam, en géologue de l'avenir, ferait naître sous vos yeux la terre de Russie, et Marina Tsetaeva, l'obstinée, la farouche, vous demanderez simplement d'écouter les cloches de Moscou. Marina Tsetaeva, un destin tragique aussi, comme Sylvia Plath, se donne la mort. Rilke, dévoilerait le feu dans les vignes, les vergers. Mayakovsky, encore un destin tragique. Tendrait le cou au canon de la bienséance. Et Verlaine murmurait ses chansons mélancoliques à l'oreille du poète aux semelles de vent. Ainsi l'univers infini des langues. L'univers infini des langues. Ne pas oublier ça, le mot infini, infini des langues. Comment s'y retrouver ? C'est à y perdre sa propre langue, ses faibles certitudes, ses dévorantes intuitions. Ce qui est précieux, inestimable, ce sont ses polyphonies, ses voix innombrables, que les pouvoirs, et alors à pouvoir, il met un P majuscule, hein, ne parviendront jamais à juguler. Ces voix-là n'ont pas de méthode à enseigner, pas vraiment. Elles parlent, elles écrivent, et ne s'en tiennent surtout pas à la seule raison, ce qui serait catastrophique. Elles existent justement contre la catastrophe, juste à côté du travail ordinaire. Mais elles ne sont pas voix de paresseux. Elles sont les voix les plus exigeantes qui soient. Certaines sont mortes de leur propre travail, dans l'absolue misère, dans l'absolue désolation, alors que tant de pitres ont occupé l'espace. Mais cela vaut pour chaque pan de la vie humaine. Rien n'est épargné par le venin cité plus haut, c'est-à-dire, disons, cette obligation capitaliste là, du travail. Cet enfer diabolique dont l'histoire contemporaine nous délivre le film. Mais pour combien de temps et jusqu'où? Les poètes se méfient de l'histoire, ne la goûtent guère, mais n'y échappent pas. Souvent, ils sont aux avant-postes, et on comprend pourquoi. Tout cela, à cause de leur voix si précieuse, si véridique. Certains ne veulent pas les entendre. Alors ils les étouffent, les écrasent, les font taire. La poésie est peut-être l'une des dernières armes pacifiques des vivants. Bah. Alors ça, c'est magnifique. La poésie est peut-être l'une des dernières armes pacifiques des vivants. C'est certain, même. C'est certain. Et j'ai bien peur, même, que ce soit la seule chose qui nous reste. Bon, avec l'art, bien sûr. Il n'y a pas que la poésie. Peut-être que Picasso, quand il a fait sa magnifique toile, Guernica, c'était aussi une dernière arme pacifique de dénonciation d'un vivant. Mais aujourd'hui, la poésie, elle a un rôle majeur à jouer. Dans les dernières semaines de l'année dernière, j'ai fait entendre la voix d'un poète israélien. Un poète israélien qui, par ses poèmes, aussi par sa vie elle-même, quelqu'un qui a été dans la souffrance, souffrance de perdre un fils à 19 ans, souffrance de voir ce pays dans cette guerre, dans ce dernier pogrom inimaginable, de voir la souffrance aussi d'une population civile qui est victime collatérale de ce conflit. C'est la poésie. Il oppose à tout cela, à toute cette barbarie, à toute cette souffrance. Il n'a que la poésie à donner. Il n'a que ses poèmes. Et ses poèmes sont sublimes. Je vous invite donc à réécouter ces émissions de Michel Écart et Lial. Il ne dit rien d'autre que la poésie est peut-être l'une des dernières armes pacifiques des vivants. Et Joël Vernet poursuit, le travail des poètes est celui de dire, de chanter comme les oiseaux. C'est chose simple, me direz-vous. Oh, c'est pas si simple. Une vie entière ne permet pas de simplifier cette question. Pourquoi des poèmes? Pourquoi créer? Inventer à partir de ce qui fut, de ce qui est, une forme qui n'est pas encore, mais qui appelle, une sorte de musique, une note, un monde ouvert, une clarté inouïe. Alors, c'est un travail ou c'est pas un travail? Voilà ce qui répond Joël Vernet. La poésie, donc. C'est un vrai travail. Et ce n'en est pas un. On chemine ici en terre inconnue. On va vers l'inconnu. on veut de l'inconnu. Sinon, à quoi bon ressasser les sempiternelles rengaines ? Personne ne vous oblige à cela. Ne vient vous dire, tu passeras la caisse, ton salaire t'attend, ton poème est très beau, ça fait combien ?
Au fond, heureusement, que l'on ne doit pas trépigner devant un tel guichet.
Ce serait sinistre, tout au moins de cette manière-là.
Non, une exigence secrète vous appelle, vous oblige, elle, pour rien du tout. Vous empêche le plus souvent d'être dans un travail ordinaire, avec les autres, parmi les autres. Ce n'est pas manque d'empathie, mais la création à venir, si fragile, vous veut tout à elle. Ah, c'est ça. Je m'arrête là-dessus. La création à venir, si fragile, vous veut tout à elle. On ne peut pas y échapper, et... on ne peut pas... C'est Bruno Ruiz qui disait... Il critiquait le dilettantisme en poésie. Ça n'a pas de sens, le dilettantisme en poésie. On peut avoir... Il y a pu y avoir des poètes comme André Frédéric qui donnent le change de la désinvolture, etc. Mais le change, à un moment donné, on va voir que dans ce qu'il écrit, dans la poésie, il y a là un engagement, il y a là quelque chose où on ne peut pas tricher. Elle vous dévore tout entier, ou elle n'est rien, ou elle dévore tout entier, ou c'est un incendie, ou ce n'est rien. Mais ça ne peut pas être un petit feu de braise, la poésie et l'acte d'écrire des poèmes. Voilà. Créer pour rien du tout, c'est complètement absurde. Il est fou, ils sont fous, mais quand il a appris à l'école... Ne leur a-t-on pas appris justement la façon d'entrer un jour dans un travail, d'y aller à fond, d'en vouloir, d'écraser autrui au besoin, de nier par ces personnes pour atteindre son but. Voilà. Je m'arrête là-dessus. Et je vous invite à lire Lettre ouverte à un marcheur déraisonnable de Joël Vernet aux éditions Le Re-Algar. Le Re-Algar. Joël Vernet également, Marcher ma plus belle façon de vivre aux éditions La Rumeur Libre. Et le dernier livre dont je vous parlerai plus tard, Journal d'un contemplateur aux éditions Fata Morgana. Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons, en plus de nous vous renouvelons nos voeux de bonne année 2024. Et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.